Grâce à mon métier d'observateur du cosmos, j'ai la grande chance d'aller dans des endroits d'une beauté exceptionnelle, loin du bruit et de la fureur humaine. Les observatoires sont des lieux magiques où l'astronome peut communier avec le ciel et recueillir la lumière cosmique grâce aux grands yeux que sont les télescopes. C'est la lumière qui nous lie à l'univers. L'espace est en effet trop immense pour que nous voyagions jusqu'aux étoiles et galaxies. Trinh Xuan Thuan est notre invité à l'occasion de la publication de son dernier livre intitulé « Vertige du cosmos ». Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec Louis Armstrong, « What a Wonderful World ».
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. And I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Comment commencez-vous votre nuit, Trinh Xuan Thuan, quand vous êtes au sommet du volcan endormi Mauna Kea sur l'île d'Hawaï? Il faut que la nuit tombe d'abord.
D'abord, oui. Et donc j'examine bien sûr l'état du ciel, qu'il faut soit des nuées de nuages, qu'il soit clair. Et puis voilà. Et puis il faut préparer les instruments pour justement capter cette lumière qui va déverser du ciel cette nuit.
Et il faut préparer son corps aussi, parce que l'altitude est tellement forte que le corps se fatigue.
Tout à fait. On est à 4200 mètres, et donc on est au-dessus de la moitié de l'atmosphère terrestre. Vous voyez. Donc c'est vrai que, comme tous les alpinistes le savent, il y a un manque d'oxygène et donc il y a toujours des migraines terribles. Donc en fait, pour moi, il faut que j'arrive 24 heures à l'avance au moins et être dans un dortoir qui est un peu plus bas, qui est vers 38 mètres, et pour que le corps s'acclimate donc au manque d'oxygène, et puis donc seulement monter jusqu'au sommet, donc la nuit suivante. Et c'est quand même 24 heures, c'est court, hein, de temps en temps, donc même le corps ne s'adapte pas tout à fait, et c'est toujours un challenge pour l'astronome de réfléchir, de même faire un calcul mental, vous voyez, qu'on fait si facilement à des altitudes normales, mais là-bas c'est dur. On se sacrifie pour l'astronomie, pour avoir accès à cette ce ciel si pur. Et donc, quand il y a moins d'atmosphère aussi, et puis on est loin aussi de la pollution lumineuse qui bloque l'éclat des étoiles et des galaxies. Donc c'est un endroit merveilleux. C'est l'un des meilleurs endroits au monde pour communier avec le ciel.
Et c'est très difficile d'y accéder parce que les plus grands astronomes du monde entier souhaitent y travailler.
Tout à fait.
Les places sont chères.
Les places sont chères. Donc il y a quand même quelques grands télescopes là et construits par des nations particulières. Donc à un moment donné, il y avait d'ailleurs un grand télescope franco-canadien qui était là et que j'ai eu la chance d'utiliser en collaboration avec des astronomes, des collègues français. Et puis, bon, il y a aussi des télescopes de la NASA, là. Et en fait, dans le livre Une nuit, je raconte donc toute une nuit d'observation avec ce télescope infrarouge. Qui fonctionne surtout dans l'infrarouge. Et puis, les deux plus grands télescopes américains, maintenant de 10 mètres de diamètre. Vous voyez, le diamètre d'un télescope importe parce que les télescopes, en fait, sont d'immenses cuvettes de lumière, recueillent la lumière du cosmos. Et donc, elles permettent de voir beaucoup plus faible, donc de voir beaucoup plus loin, et donc de remonter le temps. Parce que la lumière met du temps pour nous parvenir. Vous voyez, la lumière qui est réfléchie par votre corps maintenant, elle me vient après une toute petite fraction de seconde. Mais si les objets sont beaucoup plus lointains, comme c'est le cas dans le cosmos, la lumière met de plus en plus de temps. Par exemple, voilà, là, je vous dis, la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Tic, la lumière elle fait déjà 7 fois le tour de la Terre. C'est la plus grande vitesse possible dans l'univers, et seule la lumière peut voyager à cette vitesse parce que le photon, qui est la particule de lumière, n'a aucune masse, tandis que toutes les autres particules de matière doivent voyager moins vite que la lumière. Donc c'est la limite absolue, en fait, dans l'univers. Et donc, par exemple, la Lune, si vous la voyez, c'est la lumière réfléchie du Soleil sur la surface de la Lune qui vient dans nos yeux. Et la Lune est à 384 000 km, et donc un peu plus que 300 000 km. Vous voyez, donc la lumière de la Lune met 1,3 secondes pour nous parvenir. Et donc, si vous regardez le Soleil, par exemple, la lumière qui sort de la surface solaire et qui nous parvient à nos yeux, c'est 8 minutes après. La plus proche étoile, c'est maintenant 4,3 années après. Donc, vous voyez, Proxima du Centaure, qui est l'étoile la plus proche du Soleil, la lumière met 4,3 années pour nous parvenir. Donc l'espace est très grand, donc c'est très vite en quelque sorte. Et puis donc là.
Mais vous vous sentez vivant quand vous faites des observations qui durent des nuits entières comme ça? Vous vous sentez immensément petit et
oui,
toute
tout
petite poussière dans l'univers?
Oui, mais en même temps, je me sens connecté
avec les étoiles.
Avec les étoiles, il y a une connexion cosmique. Et c'est justement le lien cosmique qui c'est la lumière. Et donc je frémis toujours d'émotion, hein. Même après 40 ans de métier, vous savez, quand je vois le dessin, les bras spiraux d'une galaxie spirale qui se profile sur l'écran de télévision, je frémis toujours d'émotion parce que bon, je sens cette immense connexion cosmique, même si on n'est rien par rapport à l'univers. Et puis voilà, donc cette beauté extraordinaire, cet ordre, cette harmonie extraordinaire m'étonne toujours. C'est vraiment un bonheur en fait d'être en connexion avec le cosmos.
Vous êtes le fruit de trois cultures. La culture française, puisque vous êtes né à Hanoï en 1948, mais vous avez été éduqué dans les meilleurs des lycées en langue française. Vous avez étudié ensuite aux États-Unis et vous enseignez aussi aux États-Unis. Et vous avez été élevé dans une culture traditionnelle confucéenne.
Et bouddhiste.
Et bouddhiste, que vous revendiquez avec... avec passion dans tous vos livres scientifiques. Vous dites que jamais la science, même si elle doit parvenir à des résultats extrêmement rigoureux et précis, même si elle est inventée par des savants les plus géniaux soient-ils, la science, dites-vous, Trinh Xuân Thuan, ne doit jamais nous guider vers aucune option idéologique et vers aucune idée de destin de vie. Chacun d'entre nous doit rester libre par rapport aux acquis de la science.
Oui, tout à fait. Parce que la science ne peut pas par elle-même nous guider dans la vie. Vous voyez, la science est neutre en quelque sorte. Vous voyez, par exemple, quand Einstein a découvert l'équivalence entre l'énergie et la matière, vous savez, E égale MC2, la plus fameuse équation physique, il nous explique donc l'énergie des étoiles. Vous voyez, on ne savait pas pourquoi les étoiles brillaient auparavant, et donc on sait maintenant que c'est par la fusion nucléaire. Le Soleil, par exemple, fusionne des protons, de la matière, en hélium, et c'est cette fusion nucléaire qui fait que le Soleil brille et que nous existons ici, parce que c'est l'énergie du Soleil qui nous entretient la vie sur Terre. Donc ça, c'est quelque chose de très bien, parce que c'est elle qui alimente la vie sur Terre. Mais aussi, cette équivalence entre matière et énergie est responsable de l'invention de la bombe atomique. C'est grâce à cette équation, donc cette équivalence entre la matière et l'énergie, que la bombe atomique a été inventée, et donc d'où la dévastation d'Hiroshima et de Nagasaki, vous voyez, quand Oppenheimer, celui qui était le directeur du projet Manhattan, donc qui a construit ces bombes atomiques, l'a dit en jetant ces bombes sur la population japonaise, le physicien a pour la première fois connu le péché. Donc vous voyez, c'est la science est neutre, mais ses applications technologiques, donc ici vous voyez là, donc l'énergie des étoiles et puis l'énergie des bombes atomiques, l'application technologique qu'on en fait dépend donc de l'homme et donc de sa façon de concevoir la vie et les règles de morale et d'éthique et de ne pas imposer de souffrance à d'autres, ce qu'un bouddhiste appelle la compassion. Qui dicte ses actes. Donc, pour moi, la science par elle-même ne peut pas être seule pour guider nos actes, nos actions. Elle doit toujours s'accompagner par la spiritualité. Et dans mon cas, la tradition spirituelle bouddhique avec laquelle j'ai grandi. Donc, c'est très important. Vous voyez, je reprends la phrase d'Einstein, sans la science, la religion est boiteuse, mais sans la religion, la science est aveugle. Donc, il faut les deux. Et moi, j'ai appris ça très tôt, en fait, dans ma carrière. Vous savez, j'ai eu le privilège vous l'avez dit tout à l'heure, d'étudier dans des universités américaines où les plus grands esprits travaillaient, qui étaient mes professeurs, des prix Nobel, des membres de l'Académie des sciences, etc. Et quand je suis arrivé, vous voyez, naïvement, j'avais 19 ans, je pensais que ces grands esprits qui avaient conçu de telles théories psychiques, de telles, tellement de belles découvertes, étaient aussi des grands êtres humains. Mais bon, j'ai découvert très, très, très vite que je me trompais lourdement. Même, vous voyez, le plus grand des scientifiques, avec les plus grandes inventions, les plus grandes découvertes, en moyenne, dans la vie, ils se comportent comme la moyenne des êtres humains, avec leur mesquinerie, des actes qui sont peut-être non dotés de sagesse, enfin tout ça. Donc j'ai compris très tôt que le génie scientifique ne va pas de pair avec une conduite morale et éthique dans la science. Donc, et je pense que la science ne peut pas nous donner cela. Et donc, c'est seul la spiritualité peut nous donner son aide, guider notre bas. Donc, les applications technologiques de la science, donc c'est comme un bras, vous voyez, un bras peut tuer, mais aussi sauver une vie.
Vos livres sont des manuels de vie et de philosophie, Trinh Xuân Thanh, parce que vous êtes un des rares scientifiques de niveau international à vous interroger sur les acquis de la science et à en tirer une vision de notre propre existence, non seulement de la finitude de notre propre existence, mais aussi vous passez votre temps à dénoncer les illusions, par exemple les extraterrestres auxquels on nous a fait croire, mais aussi à essayer de lier ensemble votre propre observation de l'immensité et de l'infini, c'est votre boulot, avec le simple fait d'être humain. Et on peut reprendre un philosophe qui a passé son temps à essayer d'ausculter cela, malgré les siècles qui nous séparent de lui, qui est une grande contemporanéité aujourd'hui, c'est Emmanuel Kant que vous citez. Emmanuel Kant, pour définir ses principes de morale, il dit « le ciel au-dessus de moi et la loi morale à l'intérieur de moi ». Et c'est un bon principe de morale.
Tout à fait.
Et c'est ce que finalement vous déployez dans votre double chemin de vie, votre chemin scientifique, mais votre chemin confucéen. Pouvez-vous nous dire ce qu'est le REN, R-E-N, pour vous?
Ah oui, le REN, donc, c'est un principe confucéen qui dit que c'est un principe de, justement d'essayer d'améliorer la vie, le sort, d'avoir un rôle dans la vie. Donc, on n'est pas ici par hasard, mais on a un rôle dans la vie. Et dans mon cas, c'est vraiment un rôle d'éducation, de recherche, d'acquérir la connaissance et puis de transmettre cette connaissance. Donc, c'est la bonté, c'est le sens de la vie que le REN doit nous impartir.
Et à partir de vos multiples expériences et de ces sédimentations de connaissances que vous avez acquises durant ces décennies dans les lieux les plus prestigieux, je rappelle que vous êtes à la fois enseignant mais chercheur devant l'Éternel.
Tout à fait.
Avez-vous l'impression que votre caractère, votre tempérament, toutes ces nuits passées à observer les galaxies, l'immensité de la voûte du ciel, vous modifie en profondeur?
Oui, je pense que oui. Justement, donc, elle a façonné ma façon de voir le monde. Et je vois le monde comme quelque chose qui a été réglé de façon extrêmement précise pour l'émergence de la vie et de la conscience. Vous voyez, tout n'est pas hasard. Parce qu'il y a beaucoup de scientifiques et parmi mes collègues aussi qui pensent que tout est hasard, que rien n'a de sens. Parce que justement, nous sommes tellement petits par rapport à l'univers, vous voyez, le soleil, par exemple, n'est qu'une parmi les centaines de milliards de soleils qui façonnent, qui peuplent la Voie lactée. Et il y a des centaines de milliards de Voies lactées dans l'univers observable. Donc, donc il y a 100 milliards, multiplié par 100 milliards, c'est-à-dire 10 puissance 22, hein, 1 suivi 22 zéros étoiles dans l'univers observable. Et donc, on peut dire que, et nous sommes une planète qui tourne autour d'un soleil, qui est une étoile de banlieue, il n'est même pas au centre de la Voie lactée. Donc, on peut dire que nous ne sommes rien et que certains de mes collègues scientifiques ont dit donc que l'univers n'a que faire de nous. Nous sommes ici par hasard. Par exemple, dans un ouvrage qui a fait date dans les années 70, écrit par un biologiste français, prix Nobel de biologie, Jacques Monod, qui a conclu de ses études biologiques que l'homme a émergé par hasard dans un univers qui lui est complètement indifférent. Donc, l'univers se soucie comme d'une guigne de notre présence, que tout est hasard, que rien n'a de sens. Et il y a un autre physicien américain, Steven Weinberg, prix Nobel de physique aussi, qui dit que plus on comprend l'univers, plus il est dépourvu de sens. Donc, en fait, vous voyez, pour moi, c'est une vision très désespérante de l'humanité, en fait. Nous sommes ici par hasard, nous avons, notre existence n'a aucun sens et l'univers n'a que faire de nous. Au contraire, moi, je pense que mes études astronomiques m'ont montré qu'il y a une grande connexion cosmique entre l'homme et l'univers, et aussi que l'univers a été réglé de façon extrêmement précise pour que les étoiles naissent et fabriquent les éléments lourds et pour que la vie et la conscience apparaissent. Alors, il faut que je vous explique que cette alliance cosmique dont je parle, c'est parce que nous sommes des poussières d'étoiles.
Vous dites même que nous sommes, nous, les êtres humains, des enfants des étoiles.
Tout à fait, tout à fait. Nous partageons tous la même généalogie cosmique. Nous sommes, ce sont les ancêtres sont les étoiles. Au même titre que les...
Nos ancêtres sont des étoiles.
Oui, tout à fait, parce que le Big Bang, vous savez, nous sommes faits d'atomes, d'éléments chimiques, etc. Et le Big Bang, en fait, dans les trois premières minutes de l'univers, n'a pu faire que l'hydrogène et l'hélium. Alors, ce sont les éléments chimiques les plus simples de la nature. L'hydrogène, le noyau d'hydrogène est fait qu'à un proton et le noyau d'hélium, deux protons et deux neutrons. Alors, l'hydrogène, étant si simple, ne peut pas avoir de chimie complexe et l'hélium est un élément très stable, donc il ne va pas avoir pas de chimie aussi. Donc, s'il n'y a pas de chimie, on ne peut pas faire... construire la complexité, comme des hélices d'ADN, par exemple, qui sont le support de la vie, et puis où fabriquer des neurones. Vous voyez, il y a 100 milliards de neurones entre nos deux oreilles. Et il se fallait que l'univers invente quelque chose d'autre, parce que si, avec l'hydrogène et l'hélium, l'univers serait vide et stérile, il n'y aura aucune vie et aucune conscience dans cet univers.
Oui, mais vous dites aussi dans vos ouvrages, Trinh Xuân Thuan, que la création de l'univers est un hasard.
Non, justement, non.
Non?
Je prends.
C'est miraculeux.
Oui, donc c'est pas par hasard. Justement, je pense qu'il y a un principe créateur qui règle tout ça. Donc, il faut que je termine. Donc, l'univers a été réglé de façon extrêmement précise pour l'apparition des étoiles. Parce que sans les étoiles, je vous ai
dit... Mais par qui? Par un dieu, alors?
Je ne parle pas de Dieu, parce que je suis bouddhiste, donc il n'y a pas le concept de Dieu. Vous savez, Bouddha n'est pas Dieu dans le sens des religions monothéistes, comme le judaïsme.
Donc quelqu'un supérieur aux hommes qui aurait veillé à notre univers.
Non, je pense, pour moi, c'est un principe panthéiste, un principe créateur qui se manifeste dans les lois de la nature. Et donc, c'est un principe panthéiste comme défini par Spinoza et Einstein. Vous voyez, donc il n'y a pas un dieu barbu personnifié qui édicte des lois, mais ce sont les lois mêmes de la nature. Oui, donc c'est un principe panthéiste. Et on sait qu'il doit avoir...
Et la nature est vivante, autant que nous.
Oui, parce que la nature, moi je dirais, bon, bien sûr, toutes les autres espèces, les plantes, etc. Peut-être pas les minéraux quand même, vous voyez, pas la pierre, etc. Mais la vie sur Terre, à partir des bactéries, vous savez, notre ancêtre commun, c'est une cellule, une bactérie qui a apparu il y a 3,8 milliards d'années dans les profondeurs de l'océan, sur Terre.
Votre travail, Trinh Xuân Thuan, s'alimente beaucoup à l'art, que ce soit la peinture... Mm-hmm. Et là, je parlerai plus exactement de Marc Rothko, qui vous inspire beaucoup, et dont les reproductions figurent dans votre livre intitulé « Une nuit », mais aussi à l'art pariétal, mais aussi à la musique et aussi à la poésie. Je vous propose d'écouter la voix de Yves Bonnefoy, qui va lire son poème « Bien des astres ont franchi ».
Bien des astres ont franchi, la terre toujours niable, mais toi, tu as gardé pure une antique liberté. Et tu, végétal, tu as des arbres la patience d'être ici lié, mais libre parmi les vents les plus hauts. Et comme naître impatient bouleverse le sol, toi, de tes yeux, tu dénies le poids des glaises d'étoiles.
d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous ? Vous posez à l'intérieur de votre discipline scientifique, et ce depuis des décennies, mais aussi dans vos questionnements existentiels et philosophiques à propos de votre pratique scientifique, des questions dans une langue extrêmement simple, Trinh Xuân Thuan, qu'on peut tous lire, même quand on est dénué d'esprit scientifique comme moi. Et vous posez les questions que posent les enfants, mais que nous nous posons et que nous nous poserons sans doute jusqu'à la fin de notre vie. L'origine du monde, par exemple. Eh bien, les raisons de l'origine du monde, elles ont beaucoup varié depuis l'aube de l'humanité. Aujourd'hui, en 2019, on en est où?
Bon, c'est toujours la théorie, ce qu'on appelle la théorie du Big Bang, vous savez, qui est la principale, qui rallie la majorité des astrophysiciens. Donc, on pense qu'il y a 13,8 milliards d'années, donc on date l'âge de l'univers très précisément. L'univers était parti d'un vide extrêmement petit, chaud et dense. Alors, ce vide ne s'est pas dénué de tout. Hein, c'est pas le néant complet comme les gens le pensent, mais un vide rempli d'énergie. Et puis l'énergie, donc, s'est convertie en matière, de nouveau, grâce à la formule d'Einstein, E égale MC2, vous voyez, l'équivalence entre l'énergie et la matière. Et donc, créer toute la matière qui se trouve maintenant dans l'univers, les quarks, les protons, les neutrons, donc, qui sont constituants de la matière. Et donc, l'univers a eu une grande explosion, donc un Big Bang, et l'espace continue à se diluer. Il y a de plus en plus d'espace qui se crée, donc c'est ce qu'on appelle l'expansion de l'univers, et les galaxies sont séparées par des espaces de plus en plus grands, et donc pendant son expansion, il se dilue, bien sûr, sa densité est moindre, et il se refroidit. Et donc, au début, vous saviez, c'était plus chaud que tous les enfers de Dante, pour un chiffre, c'est 10 puissance 32 degrés, c'est-à-dire 1 suivi par 32 zéros. Hein. C'est des chiffres inimaginables, bien sûr, des chiffres astronomiques. Maintenant, si vous allez dans l'espace entre les galaxies, c'est un froid frigorifique quand même maintenant. C'est 3 degrés Kelvin ou moins de 170 degrés centigrades. Donc, des centaines de degrés au-dessus de la température de la glace. Donc, et on pense que l'univers va continuer à son expansion jusqu'à la fin des temps, parce qu'il y a, on a découvert à la fin du siècle dernier aussi une force, vous savez, qui semble repousser l'espace, ce qu'on appelle l'énergie noire, dont on connaît aucunement la nature, et qui constitue quelque chose comme 70% du contenu de l'univers. Et donc, ça va repousser l'univers. Et donc, voilà. Donc, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît rien de l'univers, en fait. Et c'est ça qui est le challenge, en fait, pour le scientifique. Vous voyez, en fait, 95% du contenu de l'univers, on ne connaît pas. Malgré toute notre connaissance, vous voyez, parce qu'il y a, je vous l'ai dit, 70% d'énergie noire et puis 25%, ce qu'on appelle de la masse noire. C'est-à-dire, il y a la masse qui n'est pas dans les étoiles, qui n'est pas lumineuse comme les étoiles, mais qui est là parce qu'on sait, parce qu'elle fournit de la gravité, elle empêche les galaxies de se disloquer ou les amas de galaxies de se disloquer. Et voilà, ce qu'on appelle la matière noire. On ne connaît aucunement la nature de la matière noire, aucunement la nature de l'énergie noire. Donc, 95% du contenu de l'univers nous échappe encore.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Trinh Xuân Thuan, c'est Miles Davis, Kind of Blue. Thank you. Alors merci pour Miles Davis. Savez-vous, Trinh Swantwon, que le titre de l'émission, c'est l'heure bleue. Hein? Du bleu, vous parlez beaucoup dans oui, vos ouvrages. Oui. Le bleu est très important dans votre pratique d'astronome.
Oui, le ciel est de couleur bleue, bien sûr.
Alors
oui.
D'abord, qu'est-ce que l'heure bleue pour vous?
L'heure bleue?
Ça existe bleue. Ou pas?
Pas en astronomie, mais bon, moi je quand vous avez appelé l'heure bleue, donc le titre de votre émission, ça voulait dire quoi, l'heure bleue?
Bah, c'est l'heure entre chien et loup, entre vous qui êtes tellement passionné par les couchers de soleil et par les levers de soleil.
Oui.
C'est une heure qui se situe avant le lever de soleil ou après le coucher du soleil.
Ah, d'accord. Juste, donc, le crépuscule et l'aube, en fait. Juste avant
une
que.
Une lumière particulière.
Oui, une lumière. Wow. Ça, je.
Vous la connaissez.
Je le connais particulièrement bien. Oui, c'est
toujours
un moment.
Vous pouvez me la décrire parce oui, que c'est... vous avez la chance de l'observer.
Oui, tout à fait. Et donc, c'est d'un silence immense d'abord, vous voyez. Et puis, on voit que maintenant, la nuit était très froide et on voit une différence de température. Et puis, les premiers rayons du soleil, bien que le soleil n'a pas encore émergé au-dessus de l'horizon, mais on voit la lumière qui est réfractée d'en dessous et qui commence à illuminer l'horizon. Et c'est ce silence immense, ce changement de température, ce changement de couleur, c'est vraiment un état très particulier et que je sors toujours de mon dôme donc pour observer ça, vous voyez la transition entre la nuit et le jour, toujours c'est des moments merveilleux toujours.
Pourquoi ne restons-nous pas toujours dans la nuit?
Parce que la Terre tourne et donc vous voyez la Terre tourne vers le Soleil et donc elle tourne de l'ouest en est, donc le Soleil se lève à l'est. Il semble se lever. Ça c'est une fois un fait qui a trompé l'humanité pendant 2000 ans, 2000 millénaires. Parce qu'on pensait que nous étions le centre du monde, la Terre géocentrique, et que tout tournait autour de nous. Parce qu'on pensait justement, on voyait le soleil se lever à l'est, et vous voyez, et puis se coucher à l'ouest. Mais en fait, c'est tout le mouvement est dû à la rotation de la Terre. Donc, c'est nous qui vivons sur une planète qui observe le ciel. Le soleil est là, fixe, mais quand le soleil tourne, vous voyez, il nous amène vers le soleil. Donc, le soleil se lève, et puis quand elle finit de tourner, il semble que le soleil se couche dans l'horizon. Et donc, voilà, donc c'est donc, si vous pouvez voyager, prendre un avion, vous pouvez observer plusieurs soleils parce que, dépendant de l'endroit où vous êtes sur la Terre, vous pouvez voir un autre coucher de soleil.
Alors, on va continuer sur le bleu. Vous nous racontez dans vos ouvrages, Trinh Swantwon, que quand on est en avion, justement, on a tous observé ça et qu'on s'élève dans la couche au-dessus des nuages, c'est du bleu, mais un bleu particulier. Pourquoi?
Oui, parce que bon, plus on voit, vous voyez que si vous regardez vers les montagnes lointaines, le bleu est plus foncé, bien sûr, que le bleu du ciel. Et c'est justement parce que il y a plus d'air, il y a une couche d'air entre nous et la montagne, et donc la lumière doit traverser plus d'air, et donc elle est diffusée plus vers les couleurs bleues plus sombres. Parce qu'en fait, vous voyez, le soleil émet de la lumière blanche et jaune. Hein. Il suffit de lever les yeux. Enfin, il faut pas jamais regarder directement au soleil, mais on sait que cette couleur. Et donc, en principe, la couleur du ciel devrait être jaune, mais en fait, elle est bleue. Voyez, et elle est bleue parce que il y a des particules dans l'atmosphère terrestre qui sélectionnent préférentiellement, qui absorbent le rouge. Et qui diffuse seulement le bleu. Et c'est pourquoi le ciel est bleu, vous voyez. Quand le soleil se couche vers l'horizon, maintenant, Le ciel n'est plus bleu, mais si vous regardez dans la direction du soleil, c'est rouge, jaune, enfin, les couleurs que Roscoe peint si merveilleusement et que vous avez mentionné tout à l'heure. Et donc ça, c'est dû à des grains de poussière qui, maintenant, vous voyez, absorbent le bleu et laissent passer le rouge et le jaune seulement. Et c'est pourquoi vous voyez toujours des couchers de soleil jaunes et rougeâtres avec ces merveilleuses couleurs qui sont toujours une merveille à contempler. Moi, je les contemple toujours. Le soleil, vous savez, couché de soleil juste après l'heure bleue et avant d'aller observer avec mon télescope.
Pourquoi y a-t-il un halo bleu autour de l'écorce terrestre?
Ah, oui, nous avons une couche atmosphérique qui est rien, hein, qui à l'échelle, si vous ramenez la taille de la Terre à la taille d'une orange, la couche bleue, c'est l'écorce de l'orange. Oui. Mais cette couche est vitale parce que c'est la couche atmosphérique qui nous permet de vivre. Elle est composée d'azote et d'oxygène. Et c'est en respirant que nous demeurons en vie. Sinon, nous ne serons pas en vie. Alors, pourquoi elle est bleue? De nouveau, vous voyez, c'est à cause de cette diffusion par les particules dans le ciel qui diffuse le bleu, mais ne diffuse pas le rouge et le jaune. Vous voyez?
Donc, on a beaucoup de questions à vous poser, et vos livres sont d'une telle clarté, sans mauvais jeu de mots, Trinh Xuân Thuan. Je vais laisser le soin à Mathieu Ricard, qui, lui, a la chance de pouvoir regarder le ciel, un ciel pur et magnifique, tous les soirs.
Dans l'Himalaya.
L'Himalaya, il n'est peut-être pas aussi bien que dans volcan endormi de d'Hawaï.
Si, mais... il est très haut aussi, hein, je pense, l'Himalaya. Donc, dans des altitudes comparables. Et bien sûr, c'est sa retraite, son lieu de retraite. Donc, loin de toute civilisation, certainement aussi.
Eh bien, écoutez, les lieux de retraite font penser. Écoutez sa question.
Mon cher Thuan, je te félicite pour ton nouvel ouvrage qui est tout à fait passionnant. Et j'ai une question que nous avons souvent discutée, mais qui, que j'ai encore envie de te poser. Souvent, tu fais le pari pascalien, à savoir notamment que l'univers, les conditions initiales de l'univers après le Big Bang semblent être si précisément réglées que si elles avaient été un tant soit peu différentes, eh bien, les étoiles, les planètes ne se seraient pas formées et la vie ne serait pas apparue sur Terre. Donc nous ne serions pas là pour admirer la beauté de l'univers. Ce qu'on appelle en gros le principe anthropique, qui est une sorte de principe organisateur de l'univers qui aurait réglé ses constantes. Et la question que je voulais te poser, c'est que Bertrand Russell, comme les bouddhistes, disait « il peut y avoir un univers sans début ». Il n'y a aucune faute logique dans cela. Par contre, un vrai début, c'est bien difficile à expliquer. C'est simplement un problème d'imagination. Donc, admettons que l'univers soit sans début. À ce moment-là, naturellement, toutes les parties de l'univers sont compatibles avec elles-mêmes, cohérentes, et donc, il n'y a pas besoin de régler quoi que ce soit, car toutes les choses sont mutuellement compatibles. Donc, j'aurais bien voulu savoir ce que tu pensais de cela aujourd'hui, une quinzaine d'années après notre entretien, l'infini dans la paume de la main.
Réponse.
Oui, donc bravo à Mathieu Ricard de ses souvenirs. Et c'est une question qui m'intéresse beaucoup, bien sûr. Donc le principe anthropique, hein, qui veut dire du grec, anthropos. Et donc, on l'a abordé déjà un peu tout à l'heure, donc que l'univers a été réglé de façon extrêmement précise, et réglé, je veux dire, il y a des nombres dans la nature comme ça, ce qu'on appelle des constantes physiques, hein, la vitesse de la lumière, la masse des électrons, la charge des électrons, la constante de gravité, tout ça qui détermine l'intensité, la force gravitationnelle. On s'est aperçu que si on variait un tant soit peu ces constantes physiques, et les conditions initiales de l'univers, c'est-à-dire... Les propriétés dont les fées ont doté l'univers à son berceau, en quelque sorte, à sa naissance, comme la densité initiale de matière noire, le taux d'expansion initial du Big Bang, enfin tout ça,
on s'est varié, si on s'est aperçu que si on variait un tant soit peu ces constantes physiques et ces lois physiques, les étoiles ne se forment pas. Et sans étoiles, il n'y aura pas d'éléments lourds, plus lourds que l'hydrogène et l'hélium, et donc pas de vie et de conscience possible, l'univers sera vide et stérile. Donc, c'est pourquoi je parie, donc c'est sur principe créateur, donc on a parlé tout à l'heure, on peut l'appeler aussi le principe anthropique, donc qui mène à l'homme. Moi, je trouve le principe anthropique un peu anthropomorphique justement, parce que bon, ça veut dire que l'homme, que l'univers tend vers l'homme. Mais je pense justement que si nous sommes ici, il y aura probablement d'autres formes de conscience aussi. On les cherche, mais pour l'instant, on n'a rien trouvé. E.T. est encore silencieux. Oui, mais je pense que, étant donné le nombre de planètes...
Vous n'excluez pas l'hypothèse que d'autres vivants que nous, les humains, habitant sur Terre, puissent être découverts dans une ou deux décennies.
Découverts dans d'autres planètes. Dans d'autres, oui, parce que vous savez, les découvertes, on a découvert récemment, bon, dans les dernières décennies, quelques 3000 à 4000 nouvelles planètes qui sont en dehors de notre système solaire. Donc, ça a ravivé donc l'intérêt pour le fait que peut-être qu'il y a de la vie aussi. Peut-être. Donc, moi, ce qui serait intéressant, ce sera la vie intelligente, c'est-à-dire des gens qui ont une technologie, qui peuvent communiquer avec nous, avec des ondes radio, etc., ou même avoir des vaisseaux spatiaux qui vont coloniser la galaxie. Qui sait? Mais en tout cas,
personne ne sait
non,
pour le moment.
Voilà. Et la probabilité. Mais la probabilité est non nulle qu'une vie consciente en dehors de la Terre existe.
Justement, nous, les êtres humains, nous envoyons dans l'espace, dont nous avons tellement besoin, des tas de choses qui tournent et qui peut-être détruisent cet espace sidéral qui doit rester vierge de toute pollution, parce que l'espace est pollué, de plus en plus pollué.
Oui, par des satellites artificiels.
Les satellites artificiels, puis vous avez vu que récemment, depuis quelques années, les gens les plus riches du monde veulent se payer des voyages, non pas à l'autre bout de la Terre, mais en haut dans le ciel.
Oui.
Qu'en est-il des effets néfastes de cette colonisation?
Oui, il faut vraiment ne pas complètement polluer, bien sûr, l'espace juste autour. Tous ces satellites sont pas très loin de la Terre. Vous savez, il y a quelques centaines de kilomètres jusqu'à 10 000 kilomètres, quelques dizaines de milliers de kilomètres, mais c'est pas trop loin de la Terre. Mais ces satellites réfléchissent la lumière du Soleil, donc elles apparaissent comme des objets brillants dans le ciel, et donc ça perturbe l'observation des astronomes et en particulier de nos descendants plus tard, parce qu'il y aura de plus en plus de satellites. Et récemment, vous voyez Elon Musk, qui est un des entrepreneurs qui veulent justement transporter des hommes dans l'espace, etc., et inventer des fusées. Il a envoyé des chaînes de satellites de communication pour le GPS aussi, vous voyez. Et on a pris des photographes avec des chaînes de d'objets brillants qui traversent le ciel comme ça. Alors tout ça, il faut faire très attention que ça ne ruine pas l'observation du ciel et des astronomes, bien sûr. Donc je pense que il faudra tôt ou tard une sorte de législation, discussion avec les scientifiques, les astronomes, avec les entrepreneurs et puis les politiciens, les militaires, vous voyez, parce que c'est l'espace aussi, c'est malheureusement un objectif politique et militaire aussi, vous savez bien. Parce que les Chinois veulent revenir sur la Lune, les États-Unis veulent se mettre de la partie aussi, enfin tout ça, c'est toujours des équilibres géopolitiques aussi, l'espace, oui.
Aujourd'hui, oui. Si je vous disais que vous pourriez accomplir votre vœu le plus cher, ça serait quoi? Dernière question.
Le vœu le plus cher, c'est de connaître justement la réponse à la nature de l'énergie noire et la nature de la masse noire. Donc, et qui détermine en quelque sorte le destin de l'univers. Quel sera son futur? C'est une question que vous me posez tout à l'heure. Où allons-nous?
Ben merci infiniment, parce qu'on peut en tout cas s'approcher de cette question, puisque vous apportez des types de questionnements, pas des réponses fermes et définitives, mais c'est bien pour ça qu'on aime vos livres. Merci infiniment, Tring Xuan Tuan. Je rappelle que les deux derniers livres publiés, le dernier s'intitule « Vertige du cosmos » et qu'il vient de paraître aux éditions Flammarion, et l'avant-dernier « Une nuit » aux éditions L'Iconoclaste. Merci infiniment.
Merci de m'avoir invité.
Ravi, cher ami, jamais je te tournerai le dos, posé à tes côtés. Nous n'avons plus peur de rien, nos paniques, mots magiques, des réponses à nos questions. Si je suis largué, maintenant je sais, je pourrais poser ma main sur ton épaule.
C'est avec Malik Djoudi en duo avec Étienne Dao dans ce titre « À tes côtés » que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Élodie Royer, Adrien Nazelli, Anne-Sophie Desart et Pierre Dindy. Et merci à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Et après le prochain journal de la rédaction, vous avez rendez-vous, bien évidemment, avec Mishka, l'ami Mishka Assayas, pour son « Very Good Trip ».